Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Phrase magnifique qui appartient au rituel de l'ordination des prêtres, mais qui s'adresse en réalité à tous les baptisés, à chacun d'entre nous. Que Dieu achève en nous ce qu'il a commencé au jour de notre baptême. La vie éternelle, la vie de grâce, la vie de Dieu. Voilà ce qu'il faut tenir particulièrement en ce moment où on cherche dans l'Église à sortir de ce qu'on appelle le cléricalisme, qui est ce déséquilibre entre justement entre le baptême et la prêtrise. Il y a eu un symposium la semaine dernière à Rome sur les prêtres dans l'Église catholique et le cardinal Ouellet, qui est le préfet de la Congrégation des évêques, a ouvert ce symposium en rappelant, en mettant en garde contre la surestimation de ce qu'on appelle le sacerdoce ministériel, la prêtrise, au détriment du sacerdoce baptismal. Il y a une phrase magnifique, fondamentale de saint Augustin qui, au IVe siècle, le disait. « Pour vous, je suis évêque, disait-il, avec vous, je suis chrétien. » Voilà la réalité de notre vie dans l'esprit du baptême. Que Dieu achève en nous ce qu'il a commencé au jour de notre baptême. Mais cette phrase peut éclairer d'abord les trois paraboles de l'Évangile. Elle peut l'éclairer pour nous mettre sur le chemin du tri à faire dans notre vie. Entre tout ce que nous commençons, sans toujours l'achever. Voyez le nombre de choses dans notre vie que nous commençons et que nous ne terminons pas toujours. Le discernement à faire au quotidien entre ce qui doit être arrêté, ce qui doit être arrêté parce qu'il nous détourne à la fois de Dieu et nous divise les uns des autres. Ce qui doit être arrêté, ce qui doit au contraire être mené jusqu'au bout, au nom justement de ce qui n'a pas de fin, l'amour de Dieu. Et la première parabole des deux aveugles dit l'importance de trouver un guide qui ne nous perde pas en route, qui nous conduise jusqu'à bon port. Les disciples ont pu le craindre, le redouter lorsque Jésus est mort sur la croix. N'avaient-ils pas perdu leur guide, celui en qui ils avaient remis toute leur confiance, toute leur vie? Ils sont restés ensemble, unis dans la prière. Ils avaient en mémoire ce que le peuple d'Israël avait fait lorsque Moïse était allé dans la montagne recevoir les commandements de Dieu. C'était impatienté, c'était lassé. Il était allé voir Aaron en disant, « Fais-nous d'autres dieux qui marchent devant nous. Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. » Et avec les boucles d'oreilles, les boucles en or qu'ils avaient prises aux Égyptiens au moment de la sortie d'Égypte, Aaron avait fait ce veau en or. Aaron, le frère de Moïse, le père du sacerdoce. Aaron, le père du sacerdoce, avait cédé lui-même, avait fait céder le peuple à la tentation de l'idolâtrie. Seigneur, tu nous as unis à toi au jour de notre baptême. Donne-nous fondamentalement de te rester fidèles, mais donne-nous aussi de nous garder. Protège-nous des mauvais pasteurs qui donnent au peuple ce que le peuple demande, au lieu de donner au peuple ce que Dieu commande. Dans la parabole de la paille et la poutre, ne pas aller jusqu'au bout, se perdre en route, signifie se tromper sur les défauts de nos frères. Les défauts de nos frères sont d'abord des appels à la conversion. Ils nous renvoient à nous-mêmes. Nous savons tous très bien que ce qui nous énerve le plus chez les autres, ce sont les travers dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser nous-mêmes. Il y a cette règle qui veut qu'on reproche aux autres nos propres défauts, et à l'inverse, on admire souvent les qualités qu'on n'a pas. Si vous voulez connaître le vice caché d'une personne, il suffit de lui demander « qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les autres ?» Et la poutre dans cette image dit à quel point c'est pesant, de façon assez familière. Tu vois pas que tu es lourd. Tu vois pas que tu es lourd quand tu critiques tes propres défauts. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à cesser de reprocher aux autres justement ce qui nous éloigne de toi. Donne-nous de voir dans les fautes de nos frères autant d'appels à notre propre purification. Et puis dans la troisième parabole, porter de bons fruits signifie aller jusqu'au bout de notre vocation. Aller jusqu'au bout de nos capacités d'amour en laissant le Christ agir en nous. C'est pour ça que nous sommes là. C'est le Christ qui vit en nous. La charité dont nous sommes capables est toujours le fruit de sa grâce. Et il faut dire, en particulier, aujourd'hui, à tous ceux qui souffrent d'un profond sentiment d'inutilité. J'en rencontre de plus en plus nombreux. À tous ceux qui souffrent d'un sentiment d'inutilité, il faut dire, suivant cette image, que l'arbre ne donne jamais autant de bons fruits que lorsqu'il accepte de porter le corps du crucifié. Seigneur, viens au secours de nos doutes. Tu nous appelles sans cesse à la persévérance. C'est par la persévérance que vous sauverez votre vie. Donne-nous de tenir bon dans la foi et dans l'espérance. Voilà une première façon de lire ces paraboles. Il y a une deuxième façon de lire, qui est un autre trait commun à ces trois paraboles, qui est leur caractère, leur réalité presque sociale. Elle s'applique autant à la vie sociale qu'à la vie spirituelle ou religieuse. Oui, c'est le prof de nombre de paraboles, mais je vous laisse le soin de voir vous-même comment vous pouvez vous servir de ces trois paraboles pour faire le tri entre les candidats à l'élection présidentielle. Entre les guides aveugles qui veulent gouverner la nation sans vouloir maîtriser le budget de l'État. Entre ceux qui passent leur temps à critiquer les autres camps. Entre ceux qui cherchent le court terme plutôt que la construction, le progrès et surtout la fécondité. Venons-en plutôt au troisième trait commun à ces trois paraboles, qui est la part qu'elles accordent à l'invisible. Voilà ce que nous cherchons sans cesse, trouver Dieu dans l'invisible. Dans les deux premières, cet invisible ne l'est que pour les ignorants. Ce trou que n'avait pas vu le guide aveugle. Vous savez, dans ces cas-là, il faut s'excuser, désolé, je n'avais pas vu. Mais il fallait quand même être aveugle pour ne pas voir que ce guide n'était pas fiable. Et dans la deuxième parabole, il était également évident qu'il valait mieux se taire, rester sur la réserve, plutôt chercher à se corriger soi-même, que de donner des leçons. Dans 3 jours, c'est le carême. Voilà ce qui peut être une bonne résolution déjà. Mais c'est surtout la troisième parabole qui donne le véritable accès à l'invisible. C'est l'écoute. C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture, la sagesse du Siracide. On juge l'homme en le faisant parler. De même que le fruit manifeste la qualité de l'arbre, ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ceux qui ont crucifié le Christ, ceux qui continuent à refuser, à rejeter Jésus, sont ceux qui refusent de l'écouter. Dans ces trois paraboles, Dieu se donne à voir, bien sûr à entendre, mais à voir, une lumière sur le chemin, dit le psaume. Ta parole, Seigneur, la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Il est le médecin plein de douceur qui est venu nous guérir de nos enfermements, nous en délivrer, guérir de nos aveuglements. Il est le Père plein de bonté qui nous donne son Fils pour nous sauver. Que Dieu lui-même achève en nous ce qu'il a commencé. Nous ne pouvons rien sans lui, il ne le fera pas sans nous.